suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité Monsieur Brice Hortefeux, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL et nous continuons à parler des travailleurs sans papier. Pierre-Luc Séguillon.
Oui, deux questions, deux chiffres, deux estimations. À combien évaluez-vous le nombre d'entreprises utilisant des travailleurs clandestins? Récemment, la revue Capital évaluée à 20 000. Et combien, selon vous, estimation toujours, de travailleurs clandestins dans le bâtiment?
L'estimation, très honnêtement, je n'en sais rien. Et si je le savais...
Vous avez une estimation de la présence des immigrés, donc
oui,
on imagine
mais
que vous essayez
pas
aussi
la répartition,
de...
Pas la répartition professionnelle, mais ce qui est vrai, monsieur Séguillon, et vous me donnez l'occasion de le souligner, c'est que depuis que j'ai pris mes fonctions, j'ai demandé qu'il n'y ait plus de contrôle au faciès. Plus de contrôle au faciès. Et j'ai demandé d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'interpellation à proximité des écoles. Et vous observez que depuis un an, l'un et l'autre ont été respectés. Il n'y a pas eu de débat sur ce sujet. En revanche, c'est vrai que j'ai donné aussi des consignes très précises parce que pour que l'on aille lutter contre le travail illégal. Et vous savez pourquoi ? Vous prenez l'exemple du bâtiment et des travaux publics, mais parce que en réalité, le danger est considérable. Vous prenez une entreprise avec un patron indélicat. Ce n'est pas la majorité, mais effectivement, cela existe. À recruter des clandestins, cela lui permet de ne pas respecter les droits syndicaux, de ne pas respecter la durée hebdomadaire du travail, de ne pas respecter le salaire minimum. Et quelle est la conséquence, en dehors de l'indignité pour le travailleur clandestin? La conséquence, c'est qu'au moment de l'ouverture des plis dans les collectivités locales, dans les marchés de l'État et ainsi de suite, eh bien, la concurrence est faussée. Si l'on veut que la concurrence soit juste, il faut que naturellement le statut des salariés soit soit égal. Et ce qui me surprend, c'est qu'effectivement, on parle, vous parlez vous-même de ces travailleurs clandestins dans le secteur du bâtiment, on peut en parler, effectivement, le secteur de l'hôtellerie, la restauration. Mais je prends l'exemple de Paris, simplement. De Paris, puisque Étienne Moujotte, à juste titre, a fait référence à certains restaurants. Mais ce qui me surprend, c'est qu'à Paris, il y a aujourd'hui 20 000 immigrés légaux qui sont au chômage. Peut-être que l'on peut penser à eux. Eux qui respectent nos lois, eux qui ont les titres de séjour, eux qui ont les autorisations de travail. Je vous le dis, moi, ma préoccupation va d'abord vers la défense de ceux qui sont des immigrés légaux et qui sont légalement, donc, sur le territoire français. Mais c'est ça qui pense. C'est ça qui est important.
Les travailleurs sans papier dont on parle ne faussent pas la concurrence puisque, visiblement, les employeurs les paient, acquittent des charges sociales dessus, les travailleurs eux-mêmes acquittant des impôts. Donc, ils ne faussent pas la concurrence.
Oui, mais attendez, ça...
Ce n'est pas du travail au noir.
Vous êtes, non, mais ça, vous n'avez pas de statistiques là-dessus.
Non,
vous n'en savez rien.
Ce dont on parle, ce sont des gens qui sont déclarés aux organismes sociaux.
Je vous le dis, certains ont espéré se refaire une virginité à bon compte sur ce sujet. Mais moi, je ne varierai pas de cette ligne. Quand on est un étranger en situation irrégulière, on a vocation à être reconduit dans son pays d'origine, sauf situation particulière, humanitaire, sanitaire, sociale et économique. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a mis un certain nombre de règles et un certain nombre de critères pour les régularisations.
Juste une dernière précision, il y avait 1000 dossiers déposés, 260 disiez-vous régularisés, ça veut dire que les autres sont rejetés ou sont en cours d'études?
Les examens sont en cours, certains, il n'y a absolument aucun dossier, il y a simplement un nom, mais en tout état de cause, comme l'indiquait le Premier ministre François Fillon, cela se limitera à quelques centaines.
Vous avez tout à l'heure dit que votre politique, elle était à la fois négative, c'est-à-dire... refuser les clandestins, les refouler, et en même temps, intégrative et développement, co-développement. Sur ce co-développement, vous avez un budget, je crois, de 638 millions d'euros pour l'année 2008.
Oui, pas pour le co-développement, j'aimerais bien.
Non, non, justement, j'y viens. Le co-développement, c'est 29 millions.
Non, c'est 60 millions d'autorisation d'engagement.
D'accord.
Hein, donc 60 millions.
Écoutez, c'est, évidemment, et j'ajoute, si vous permettez d'ajouter un chiffre, l'aide au développement, qui ne dépend pas seulement de vous, qui est globalement, elle a diminué. Elle est passée de 0,47 à 0,39.
Oui. Vous m'avez demandé d'être bref pour aborder d'autres sujets. Je pourrais débattre sur ce sujet parce qu'en été, l'aide au développement français, c'est aujourd'hui 9 milliards d'euros. Mais c'est pas simplement 9 milliards d'euros puisqu'il faut rajouter en réalité, pour être honnête, la contribution française à l'Europe. Et au sein du FED, c'est-à-dire le Fonds européen de développement, la France est le premier contributeur avec 24%. Donc vous dire, honnêtement, on est des gros contributeurs. Mais c'est normal parce que l'on a une responsabilité, j'allais dire une responsabilité historique. Concernant prend les crédits du co-développement, du développement solidaire. Vous dites 60 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Vous avez raison, c'est pas beaucoup. Mais la création même du ministère, et c'est cela qui est intéressant, a entraîné la multiplication par 3 de ces crédits. Donc c'est vous dire qu'il était important qu'il y ait un signal fort qui soit adressé, et ça veut dire que nous, dans mon ministère, lorsqu'on signe des accords de gestion concertée, on est en train d'en discuter avec le Mali, on en a signé 5 au cours de l'année 2007. Vous vous rendez compte, ça veut dire que la politique d'immigration française, la nouvelle politique d'immigration française est non seulement comprise, accompagnée, partagée par les pays qui sont terres d'immigration, et là, on engage des initiatives qui sont des initiatives ciblées. Il y a les aides d'État à État, vous avez raison, c'est la coopération, et puis il y a des aides face à face, c'est le co-développement, et le développement solidaire.
Vous avez eu l'occasion dans le magazine L'Express récemment d'évoquer une association qui s'appelle Indigène, et dont les mots d'ordre visiblement vous déplaisent par leur agressivité.
Oui, ça pose la question naturellement du combat contre le racisme. Et là, j'ai besoin de quelques secondes quand même. Combat contre le racisme, c'est un combat permanent qui d'ailleurs relève du ministère de l'Intérieur. C'est un domaine dans lequel on obtient des résultats très encourageants. À l'évidence, les actes racistes sont en diminution. Il y a eu 169 actes racistes très exactement en 2004. Il n'y en a eu que 61 en 2007. Et la tendance est exactement la même concernant les menaces racistes ou les actes d'intimidation, puisqu'on est passé de 383 dans la même période à 265. Ça signifie que le risque existe, qu'il est en diminution, mais qu'il existe toujours. Il existe toujours à l'égard de certaines communautés, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leurs convictions religieuses. Mais le risque existe aussi à l'égard, et je le dis très solennellement, le risque existe aussi à l'égard de la communauté nationale. C'est inacceptable dans le premier point, c'est tout aussi inacceptable sur ce second point. Et donc j'ai été, c'est vrai, personnellement très heurté, très choqué, de découvrir qu'une association qui s'appelle Mouvement des indigènes de la République, par la voix de sa porte-parole, avait traité les Français de sous-chiens. Alors, c'est un jeu de mots. On a suffisamment pâti de jeux de mots. C'était par rapport à des Français de souche. Mais on comprend aussi ce que cela peut vouloir dire. Et je ne laisserai pas prononcer de tels mots, je le dis très clairement, alors, sans réagir. Non, mais ça veut dire qu'il faut rappeler, attendez, ça veut dire qu'il faut rappeler un principe. Lorsque l'on vit en France, lorsque l'on est né en France ou lorsqu'on est né à l'étranger, que l'on soit français ou que l'on soit d'ailleurs étranger, on doit respecter la France et les Français. On doit respecter le territoire qui vous héberge, qui vous accueille, qui vous nourrit. Et on doit respecter le Français comme on respecte l'étranger et comme on respecte tout être humain.
Et quand vous dites c'est que vous ne resterez pas sans réaction,
j'ai donc signalé au garde des Sceaux les propos de ce mouvement afin qu'il examine quelles sont les conséquences que l'on peut en tirer. Mais je dis dans et déjà à cette association que nous serons très vigilant, parce que la liberté d'expression ne permet pas ni de tout tolérer, ni de tout accepter. Et quand on professe le combat contre le racisme, eh bien, on ne le promeut pas.
Étienne Moujot.
Pour venir à la politique, monsieur Hortefeux, une question simple pour vous. Quelle qualité faut-il avoir pour être un bon Premier ministre de Nicolas Sarkozy?
Question simple. Réponse simple.
Question simple, il faut avoir les qualités de François Fillon.
C'est très simple. Voilà. Un complément de réponse, Étienne ? Ça vous satisfait ?
Non, mais ça me va très bien.
Ah ben voilà. Pourquoi est-ce que les réunions des responsables de la majorité se tiennent désormais à l'Élysée, alors que depuis très longtemps elles se tenaient à Matignon ? Beaucoup y voient une forme de sanction, peut-être même d'humiliation à l'endroit de François Fillon.
Non, pas du tout. Le président de la République est un président qui s'engage, et donc il est assez logique que, s'engageant, il doit s'appuyer sur la majorité, et donc comment s'appuyer sur la majorité sans la voir. Mais donc il la voit avec le Premier ministre très régulièrement. Cela me paraît sain, et pour être tout à fait clair, cela me paraît très utile.
Mais pourquoi ça ne s'est pas fait dès le début ? Pourquoi ça se fait maintenant, au bout d'un an ?
Eh bien parce que, vous savez, vous connaissez la formule du philosophe grec Héraclite, il n'y a que le changement qui est permanent, et bien voilà, ça prouve que ça change.
Il était bien, Héraclite.
Le président de changement, le chef de l'État réunit maintenant 7 ministres, une fois par semaine. Vous avez le privilège d'en faire partie. Est-ce que ce cabinet particulier a un rôle spécial ? Il n'y a pas le Premier ministre parmi les 7. C'est un peu étonnant.
Bon, bah écoutez, je vais dissiper un malentendu, puisque vous m'y encouragez. Et ce groupe des 7, ce ne sont ni les 7 mercenaires,
sûrement pas les 7 salopards,
ni les 7 piliers de la sagesse,
peut-être,
ni à l'évidence les certes merveilles du monde.
Mais en revanche,
comme l'a dit Étienne,
non mais Étienne Mougeot a raison de le souligner, mais c'est pas très habile ni très gentil de sa part, parce qu'à mon avis, ça allait de soi. Ça veut dire tout simplement que nous sommes, vous savez ce qu'on appelle dans un orchestre, un septuor. C'est-à-dire que nous sommes là pour aider le chef d'orchestre à mettre en musique sa politique, ni plus et ni moins.
Et... Mais il n'est pas là le chef d'orchestre, puisque le Premier ministre n'y est pas.
Non mais écoutez, plus sérieusement, le Premier ministre rencontre très régulièrement ses ministres.
Mais c'est pas le chef d'orchestre.
Il a organisé, il y a une quinzaine de jours, une rencontre, un dimanche après-midi, ce qui a réjoui chacun des ministres, et de manière à faire un tour d'horizon très précis. Deuxième élément, il rencontre les ministres par groupe. Ensuite, il lui arrive au Premier ministre de les rencontrer individuellement. Moi, je déjeunerai cette semaine en tête à tête avec François Fillon. Et tout ce qui est autorisé au Premier ministre serait interdit au président de la République. Donc, naturellement, là aussi, c'est simple, c'est utile, parce que ça nous permet de dire, ça nous permet de débattre, ça nous permet d'écouter, ça nous permet de relayer. Et si l'interrogation, parce que je la devine chez vous, c'est pourquoi ces sept-là, dont Xavier Darcos d'ailleurs fait partie, pourquoi ces sept-là? Eh bien, c'est sans doute parce que, par nos parcours, notre origine, notre engagement, nous sommes un échantillon représentatif du gouvernement.
Êtes-vous bien sûr d'être un échantillon représentatif du gouvernement? Quand on regarde le gouvernement, il y a une parité, homme-femme. Dès qu'on passe au septuor, c'est-à-dire aux choses sérieuses, il y a une femme pour six hommes. Ce qui signifierait donc que quand on veut passer aux choses vraiment sérieuses, au relais, bah, il faut que ce soit des mâles.
Il y a Nadine Morano fait partie de ce groupe, vous avez raison de la souligner.
Une sur six.
Chacun connaît son franc-parler.
Une sur six, c'est ce qu'elle disait. Comment vous
expliquez peut-être que Nadine Morano est capable de parler pour beaucoup.
Non.
Elle compte pour plusieurs femmes.
Voilà.
On a l'impression qu'il y a eu beaucoup de couacs dans la majorité, que justement tous ces changements, tous ces ajustements tiennent plutôt à ça, la volonté d'éviter les couacs, ce qui reviendrait, c'est une autre manière de dire ce que je disais tout à l'heure, ce qui reviendrait effectivement à considérer que François Fillon tient mal ses troupes.
En réalité, vous posez de manière un peu complexe deux questions simples.
Non, j'en posais une.
Deux questions simples. La première, est-ce que l'organisation de la majorité est parfaite? La réponse est non.
Actuellement, elle n'est pas parfaite.
La deuxième question, l'organisation de la majorité est-elle perfectible? La réponse est oui.
Oui, ça, elle se déduit de la première question, alors, ça c'est sûr.
Non, mais effectivement, vous avez raison de souligner, il y a eu des couacs, pas si nombreux et pas si graves. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de la Ve République, ça permet de beaucoup relativiser, vous êtes tous des spécialistes. Et vous vous souvenez certainement, par exemple, qu'en 1959, le ministre de l'Éducation nationale, André Bouloche, a démissionné parce qu'il était en totale opposition avec ce qui faisait un grand débat au sein du gouvernement, qui était la loi sur l'enseignement libre de Michel Debré. Il a démissionné.
Mais là, il n'y a pas de démission.
Le successeur,
là, c'est du désordre.
Attendez, le
c'est
successeur,
pas la même chose.
Qui était Monsieur Pierre Sudreau, a démissionné en 1962 parce qu'il était en total désaccord avec ce qui faisait débat, sujet essentiel, qui était l'élection du président de la République au suffrage universel. Puis plus récemment, vous vous souvenez que Michel Rocard a démissionné en 1985 en désaccord avec là aussi une réforme de mode de scrutin. Vous vous souvenez aussi certainement, attendez je termine,
mais il n'y a pas de démission là.
Vous vous souvenez aussi certainement que Jean-Pierre Chevènement, sur des sujets qui faisaient débat au sein du gouvernement, a démissionné, pas une fois, pas deux fois, qu'il a démissionné trois fois. La troisième fois, on l'a oublié parce que c'est une question d'habitude. Mais il n'en reste pas moins qu'il a démissionné trois fois.
Là, il n'y a pas de
justement.
Attendez,
je termine.
Il l'a dit la deuxième fois et puis finalement, il a changé d'avis. Donc, et ensuite, il a les ministres qui se sont fait virer. Vous avez eu Jean-Jacques Servan-Schreiber qui, en 1974, est resté 15 jours au gouvernement. C'est pas un couac, ça. Et ensuite, il y a eu, sous Michel Rocard, un ministre qui est resté 8 jours au gouvernement. C'était Léon Schwarzenberg. C'est pas un couac, ça.
Je rappelle l'histoire.
Regardez Xavier Darcos, ministre de l'Éducation. Il n'a pas l'intention de démissionner. Il n'y a pas de couac chez nous.
Je rappelle l'historique fait. En quoi, vous le disiez vous-même, la majorité est-elle perfectible? Alors, qu'est-ce qui ne va pas?
Alors, non mais. Je termine.
Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, terminez par répondre à la question. Vous dites que la majorité n'est pas parfaite. Qu'est-ce qui ne va pas?
Eh bien, je crois que la majorité, que nous avons tous, intérêt à nous rappeler trois réalités. Et si l'on accepte ces trois réalités, on peut progresser et progresser rapidement. Première réalité, c'est que le succès à l'élection présidentielle et dans la foulée le succès aux élections législatives, nous le devons à Nicolas Sarkozy. Et nous le devons quasi exclusivement à Nicolas Sarkozy. Vous le savez, depuis 30 ans, depuis 1978, à chaque fois qu'il y avait une élection nationale, on changeait de majorité, il a rompu ce cycle. Première réalité qu'il faut impérativement bien garder en mémoire. Deuxième réalité, le gouvernement est divers. C'est vrai. Et la diversité, ça peut entraîner la richesse, mais cela ne doit pas empêcher la cohésion et la solidarité gouvernementale. Et d'ailleurs, le Premier ministre est le garant de cette solidarité gouvernementale. Pour prendre un exemple et qui me concerne directement, regardez dans mon domaine. Fadela Amara, qui est sur le plateau, elle a exprimé... qu'il y avait des différences. Et Bernard Kouchner l'a dit aussi. Et puis, on s'est vu, bien sûr, on s'est vu, et on a discuté avec Fadela Amara, on a progressé, et Fadela Amara a dit à juste titre, au nom de la solidarité gouvernementale, mais parce que ça correspondait à ses convictions, que par exemple, l'appréciation des dossiers des sans-papiers au cas par cas, c'était ce qu'il fallait faire. Et donc c'est cela, la deuxième réalité. C'est que la diversité est un atout, mais qu'elle doit s'exprimer dans la solidarité. La troisième réalité, c'est l'UMP. Oui, l'UMP a vocation à imaginer, à stimuler, à proposer, à accompagner, mais l'UMP a simultanément vocation à expliquer et à relayer les initiatives de la majorité et du gouvernement. Cela ne va pas l'un sans l'autre. Et ça veut dire tout simplement que moi je suis favorable à ce qu'il y ait de l'ordre, pas du désordre, de la cohésion, ce qui n'empêche pas la diversité.
Est-ce que vous estimez que pour favoriser cette cohésion, il conviendrait que le groupe UMP à l'Assemblée nationale et les parlementaires en général UMP soient davantage associés à la fabrication des lois ? Parce qu'il me semble avoir entendu que les uns ou les autres se plaignaient de l'absence de coopération dans l'élaboration des lois.
Eh bien, naturellement, on peut progresser. Si je vous ai dit que c'était pas parfait, mais les choses s'améliorent. S'améliorent vite, s'améliorent rapidement, grâce à l'implication personnelle du président de la République pour que tout ceci soit cohérent.
Et de Jean-François Copé ?
Et de chacun des acteurs, de Jean-François Copé, naturellement, puisqu'il est président du groupe, et institutionnellement, il a cette part de responsabilité, et j'ajouterai que amicalement, il s'y implique. Et donc, j'ai lu, comme vous certainement aujourd'hui, ce qu'il a déclaré dans le journal du dimanche, c'est très exactement ce qu'il faut faire pour assurer la cohésion et le succès de la majorité. Il n'y aura pas de succès si nous ne sommes pas cohérents, si nous ne sommes pas unis, tout en respectant notre diversité.
Est-ce que vous ne pensez pas que, et on a l'impression que les députés sont un peu tourneboulés, que l'avalanche de réformes que vous faites toutes en même temps finit par enlever pour eux la capacité à travailler, la capacité de visibilité.
Mais pas exactement, M. Séguillon. La marque du sarkozysme, c'est précisément d'engager les réformes. Beaucoup de réformes. En réalité, quasiment une cinquantaine de réformes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tout se tient. On ne peut pas saucissonner la réforme de notre société. On ne peut pas la segmenter, la sectionner. Il faut que l'on engage ce mouvement impératif de réforme pour les raisons que je vous ai indiquées. Et ce rythme, il ne ralentit tira pas, Monsieur Séguillon. Ça sera la marque du quinquennat de Nicolas Sarkozy de préparer notre société.
Alors, si vous me permettez deux curiosités, à l'analyse, après un bilan d'un an, à quoi a servi l'ouverture, hormis à déstabiliser un temps le Parti Socialiste ? Et deuxième question, à quoi sert le nouveau centre, hormis à déstabiliser François Bayrou ?
Vous avez une vision positive de la politique. Le jeu consiste simplement à déstabiliser.
Non, pas du tout. C'est pas comme ça. C'est vous qui allez.
Mais non, pas du tout. Mais moi, je vais vous dire, l'ouverture, c'est s'agréger des talents qui sont des talents complémentaires avec des expériences différentes. Et tout l'honneur de Nicolas Sarkozy et la particularité de Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir fait l'ouverture sans demander à quiconque de renoncer à ses convictions. Et Fadela Amara, qui est donc là, on est aussi un exemple parfait. Donc c'est ça l'intérêt de l'ouverture. On s'enrichit de nos différences. Voilà. Quant au nouveau centre, eh bien, il y a une sensibilité centriste qui ne se reconnaissait pas un temps dans l'organisation de l'UMP. Au moment de l'élection présidentielle, ils ont considéré que François Bayrou les envoyait dans une impasse, pour ne pas dire au cimetière, et à juste titre, sur la base de convictions, sur la base d'un programme, ils ont décidé d'accompagner et de soutenir la majorité présidentielle. Ils y ont un rôle important et utile, et Hervé Morin en est un président efficace.
Etienne Mougin.
Une question personnelle, monsieur Hortefeux. Il y aura des élections européennes dans 18 mois, un peu plus, serez-vous candidat en tête de liste dans votre région d'Auvergne ?
Dans un an.
J'étais, c'est au mois de juin 2009. C'est vrai que les élections se succèdent à un rythme assez soutenu dans notre pays. Je serai candidat au renouvellement du mandat qui était le mien avant que je rentre au gouvernement.
Et si vous êtes élu, vous siégerez à Strasbourg et donc vous abandonnerez votre poste ministériel.
Ça dépendra, naturellement. Ça dépendra, comme pour les députés, comme pour les sénateurs. Il en va de même pour les députés européens. Ça dépendra de la volonté du président de la République à ce moment-là.
Ça sert à quoi d'être candidat à une fonction qu'on n'occupe pas après?
Ben c'est une honnêteté d'abord que d'être candidat, parce qu'après tout, vous avez raison.
Vous n'allez pas y siéger.
Mais vous avez raison, monsieur Apathy, je pourrais rester. Mais vous avez raison, monsieur Apathy, je pourrais rester tranquillement, ne pas être candidat, et puis laisser les trains passer.
Ça n'est pas ma question.
Eh ben oui, mais moi, c'est ma réponse.
Peut-être vous allez me laisser formuler ma question.
Vous connaissez, vous avez déjà entendu ce type d'échange.
Vous allez peut-être me laisser formuler ma question. Est-ce que ça n'est pas un travers dans lequel vous sombrez à votre tour, donc, d'être candidat dans des fonctions qu'ensuite on n'a pas envie d'occuper? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise culture, quelque chose qui appartient au passé?
Attendez, monsieur Novelli était candidat, qui a d'ailleurs été député européen, mais qui était candidat aux élections législatives. Il a été aux élections législatives, il a été élu, et le président de la République et le Premier ministre lui ont proposé de rentrer au gouvernement, c'est ce qu'il a fait.
Mais si vous ne voulez pas siéger au Parlement européen, quel intérêt d'être candidat?
Mais qui vous dit que je ne veux pas?
Donc si vous êtes élu, vous pourriez abandonner votre fonction.
Je viens de vous dire que ça sera la décision du président de la République.
Vous êtes favorable à une modification du mode de scrutin européen?
Moi, j'ai été favorable à ce qu'il y ait un mode de scrutin uniquement régional. Et à l'époque, le Parti Socialiste, d'ailleurs, nous avait dit que c'était exactement ce qu'il fallait faire, mais qu'il ne le pouvait pas, étant tenu par des alliances avec d'autres familles, les communistes et les Verts. Il est trop tard aujourd'hui pour changer ce mode de scrutin-là.
Pour les élections régionales, il faut changer.
Je parle pour les élections européennes.
Pour les élections régionales, il faut changer de mode de scrutin.
Pour les élections régionales, moi, je suis favorable au mode de scrutin qui soit le plus clair, le plus simple, le plus lisible et le plus compréhensible par les électeurs.
Concrètement.
Aujourd'hui, il y a à l'évidence un défaut d'identification des conseillers régionaux. Si l'on veut interpeller les conseillers régionaux, il faut les connaître. Il faut donc sans doute évoluer vers un mode de scrutin qui soit plus simple et plus clair.
Et lequel a votre préférence?
Celui que je préférais, parce que à l'évidence c'est celui qui est plus simple et plus clair, donc je suis logique avec ce que je viens de vous dire, ça serait un mode de scrutin à un tour.
Un tour sur un département?
Non, à l'échelon régional, avec des subdivisions départementales, de manière à ce qu'on les identifie.
C'est ça, mais un seul tour.
Oui.
Et vous souhaitez que cette réforme, je crois que le Premier ministre en a parlé, voit le jour?
Écoutez, je l'espère.
Le Parlement a un peu d'influence, j'imagine, dans ce genre de débat. Pierre-Luc Séguin.
Le Parlement est en train de débattre de la réforme des institutions. C'est un sujet politique délicat. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste sur la possibilité d'aboutir à la révision de cette Constitution?
Et moi, je trouve que finalement, ce débat nous rappelle une réalité. C'est qu'au-delà des clivages partisans, le vrai nouveau clivage, c'est entre les conservateurs et les réformateurs.
Encore ?
C'est ça la réalité.
Vous l'avez déjà dit tout à l'heure.
Oui, c'est la réalité.
Entre l'immobilisme et...
Voilà. Mais oui, c'est les réformateurs et les conservateurs. Donc, il y a ceux qui effectivement veulent réformer. Vous savez, vous m'avez interrogé sur les élections européennes.
Bon, je peux vous arrêter un instant. Est-ce que c'est pas conservateur de ne pas vouloir modifier, par exemple, le collège électoral du Sénat et de modifier la manière dont les sénateurs sont élus? C'est un peu conservateur.
Je vous donne un exemple de réforme. Vous m'avez interrogé sur les députés européens. Les députés européens peuvent accueillir le président de la République, ce qu'ils vont faire dans le cas de la présidence française, ils peuvent accueillir le président de la République en l'invitant à s'exprimer devant l'ensemble du Parlement, devant donc des députés européens français. En revanche, et Roger Karoutchi et Hervé Novelli s'en souviennent, le président de la République, Jacques Chirac, était venu s'exprimer. En revanche, le président de la République française, qui peut s'exprimer devant les députés européens français, ne pourrait pas s'exprimer devant les députés et sénateurs français. Honnêtement, c'est à rien y comprendre.
Mais ça, c'est acté.
Oui, c'est acté, mais avec l'opposition du Parti Socialiste.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur la réforme du Sénat que demandent les socialistes.
Mais attendez, sur la réforme du Sénat, monsieur Séguillon, vous êtes un journaliste très compétent et averti, et vous savez que ce sujet n'est pas de la compétence constitutionnelle. C'est une compétence qui est législative, qui n'est pas constitutionnelle, donc ce n'est pas lié.
Vous irez voir le film qui vient d'être primé à Cannes, Entre les murs, de Laurent Cantet?
J'étais sûr que vous alliez me poser la question, et vous êtes gentil de me la poser de cette manière-là, parce que je m'étais dit que vous alliez me demander si je m'étais débrouillé pour l'avoir vu. Non, je ne l'ai pas vu, mais naturellement, je irai le voir, mais je crois qu'il ne sort qu'en octobre.
L'un des acteurs, ses parents, ou du moins sa mère, n'avait pas de papier. Vous voyez, comme quoi,
Oui. Et ben comme quoi, quoi?
Ben, comme
qu'est-ce
quoi,
que vous en tirez, comme conclusion?
Quelqu'un qui n'a pas de papier
peut être intelligent, peut-être utile. Ben, est-ce que vous m'avez entendu dire l'inverse? Ne tombez pas dans la caricature que vous dénoncez parfois à juste titre.
Peut applaudir son fils qui a permis à la France d'obtenir une palme d'or.
Eh bien, très bien. C'est une très bonne chance.
Voilà. Donc, bon film, Brice Hortefeux.
Mais on se reverra avant octobre, quand même.
C'était la fin de ce grand jury. Et donc, dimanche prochain, même lieu, même heure. Bonsoir.